Voilà, bonjour à vous tous. La voix entendue à l'instant provient de l'espace bar, puisque débute la rencontre littéraire d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver pour le livre présenté cet après-midi, Les Derniers de la rue Ponty, un livre paru chez Naïve par Serigne M. Guiaï. N'hésitez pas, c'est un véritable coup de cœur, une belle découverte pour ce premier roman. Le nom de l'auteur vous dit peut-être rien, si je vous dis par contre son nom d'artiste, Dizzy, évidemment ça fera plus de tilt, mais c'est le passeur des mots, le conteur que nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi. Serigne, bonjour.
Bonjour.
Alors pour débuter cette rencontre, j'ai envie de vous demander si aujourd'hui on vit dans une société sans âme et si les mots, qu'ils soient mis en musique ou en liberté dans un livre, c'est votre façon de redonner, de trouver de l'âme.
Alors, je sais pas si on vit dans une société sans âme. En tout cas, moi, c'est un besoin, j'allais dire, essentiel à ma vie. J'ai besoin de m'exprimer à travers des écrits. Donc là, c'est un roman, mais j'ai plus l'habitude d'écrire des chansons. C'est ce qui me permet de me sentir vivre, moi, et de sentir ma propre âme à moi. Après, c'est vrai que parfois, quand on voit certaines choses, on peut dire qu'on vit dans une société sans âme, oui.
Alors finalement, les mots, pouvoir les utiliser, est-ce une des grandes libertés qui nous est offerte quand on peut en jouir de cette liberté ?
Oui, mais c'est une liberté que, si on peut dire, j'ai dû me battre pour l'avoir. J'ai dû faire pas mal de sacrifices, prendre beaucoup de risques, inquiéter beaucoup ma maman lorsque, plus jeune, je me déscolarisais pour être enfermé dans ma chambre, écouter de la musique et écrire des chansons. Donc c'est une liberté que j'ai, mais qui n'est pas éternelle, je pense, parce que faut que je continue à me battre pour pouvoir en jouir.
En tout cas, aujourd'hui, ça passe par ce premier roman, je l'ai déjà dit, un roman abouti, véritable coup de cœur, plein d'humanisme, qui nous parle de valeurs humaines essentielles. Et finalement, ce roman, c'est un peu le chant de l'âme humaine, un chant original, je dirais poétique, car finalement, cela débute dans une atmosphère surréaliste, comme dans un film de David Lynch, et on a rendez-vous avec un homme qui se prétend être un ange et qui a un long manteau noir.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai emprunté à Wim Wenders et son film Les ailes du désir, où en fait j'ai pris le thème classique d'un ange qui, si on peut dire, est en rédemption, en tout cas qui hésite entre, si on peut dire, la terre et le reste, et qui donc arrive au Sénégal, à Dakar, et qui cherche un marabout auquel il va dire qu'il n'arrive pas à atteindre le paradis et qu'il a perdu un combat contre un démon et qu'il aimerait se rebattre contre lui pour aller rejoindre deux personnes qu'il a tant aimées, qui s'avèrent être sa femme et sa maman. Alors ça a l'air assez, si on peut dire, spirituel comme ça, mais ça c'est vraiment au début du livre, parce que tout au fil de l'histoire, c'est ancré dans une réalité, et tout ce qui est un petit peu surnaturel et spirituel s'estompe peu à peu pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup plus
tangible, réaliste. Et ça, je l'approuve, parce que c'est vrai que moi j'ai les pieds bien sur terre, donc parfois j'ai un peu difficile avec ces choses-là, et ça fonctionne admirablement bien. On peut dire que c'est un roman d'âme et d'esprit, car finalement avec ce roman on va vibrer au soubresaut des âmes que l'on va croiser à travers cet homme.
Oui, c'est ça, en fait. Donc il y a deux points de vue, si on peut dire. Il y a deux narrateurs. Il y a donc Gabriel, cet ange-là, qui nous raconte cette histoire à la première personne. Et il y a aussi un narrateur omniscient qui, lui, fait des descriptions et qui parle, qui a un petit peu une vue d'ensemble. À travers ça, donc, il y a trois autres personnages, deux personnages féminins, donc, qui sont Sally, une jeune métisse franco-sénégalaise qui veut venir vivre en France et trouver son père qu'elle ne connaît pas. Et un autre personnage qui s'appelle Emma, qui a 40 ans, qui elle est française, qui vit donc en Afrique, au Sénégal, qui a perdu la foi et qui est un petit peu perdu en fait. Et un autre personnage, deux autres personnages, un personnage qui s'appelle Miyidima, qui est une jeune sénégalaise, et Alioune, qui eux deux tombent amoureux. Et tous ces personnages-là Donc ces âmes que va croiser justement Gabriel vont tous avoir un lien plus ou moins les uns avec les autres plutôt, pour arriver à quelque chose à la fin
d'humaniste et d'être ensemble. C'est une belle galerie de portraits, puisque sa mission finalement, ça sera aider, sauver deux femmes, Serine, parce que finalement sauver une femme, c'est sauver l'humanité.
Oui, ça c'est une phrase que lui dit donc le vieux marabout, donc quand Gabriel va le voir et qui lui raconte son problème, le marabout lui dit sauver une femme, c'est sauver l'humanité. En fait, cette phrase là elle m'est inspirée d'une phrase que m'a dit un jour mon grand-père, un an avant qu'il décède, où il m'avait dit quand on éduque un homme, on éduque un être, quand on éduque une femme, on éduque un peuple. Et c'est une phrase qui m'a touché, donc je m'en suis inspiré pour écrire cette phrase-là.
Donc son rôle, ça sera les aider, les ramener à l'essentiel finalement. Alors Serigne, c'est quoi l'essentiel pour vous?
Je sais pas, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, je le cherche encore et j'espère que je le chercherai jusqu'à la fin de ma vie, sinon si je trouve l'essentiel, je serai plus en quête et peut-être que je m'ennuierai.
Est-ce que l'essentiel, justement, c'est changer sa vision du monde?
En fait, moi, ce que j'essaie d'être... Il y a un passage à la fin du livre qui parle de ça, c'est la lucidité, en fait. C'est-à-dire... alors, c'est quelque chose d'assez complexe, mais... C'est compliqué. Il y a un mot qui s'appelle relativiser, qu'on dit relativiser. C'est vrai qu'il faut relativiser, mais parfois les choses sont tellement frappantes et tellement vraies et tellement évidentes que les relativiser, parfois, c'est mentir. Enfin, c'est assez... J'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, mais c'est ça, en fait.
Il faudrait finalement plus simplifier les choses, parce que c'est vrai que ce roman pourrait apparaître très simple, mais c'est ça le talent, justement, de nous donner un livre qui apparaît simple, mais qui ne l'est pas, parce qu'il y a une très grande profondeur.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est un livre qui est assez triste, faut être honnête. Il parle un petit peu de ce rapport nord-sud, mais sans moi je suis métisse franco-sénégalais, je voulais pas prendre parti, en fait, dire que l'Afrique c'est bien, que l'Occident c'est pas bien. Je ne suis pas dans ce discours-là, je suis plus dans un discours, comme vous disiez au début, humaniste, où j'essaie un petit peu de, en tant que métisse qui est grandi en France et qui suis allé beaucoup au Sénégal ces dernières années, essayer de donner une vision comme vous disiez, simple et surtout lucide sur les travers humains qu'on peut trouver des deux côtés et sur ces relations qu'il y a.
Alors on a l'impression d'être très sérieux, je dirais peut-être philosophe, mais finalement c'est parce que votre Gabriel, en plus d'être un ange, il est un peu philosophe également, non?
Ça c'est ce que lui dit le personnage d'Emma. Oui, c'est ça, en fait. En fait, Gabriel, c'est quelqu'un qui prétend être mort, qui dit qu'il est un ange. On découvre au fil de l'histoire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais c'est quelqu'un qui se cherche, qui est complètement perdu et qui c'est souvent comme ça dans la vie, on a souvent des réponses pour les autres mais on trouve pas les réponses pour soi, en fait. Et lui, il a plein de réponses pour Emma, pour Sally, mais pour lui il est dans le flou. Donc c'est pour ça que parfois, par ce qu'il dit, il peut paraître un peu philosophe, mais je crois qu'il est surtout un peu fou.
Alors on voyage beaucoup au gré des paroles de vos personnages. Il y a un très beau symbole dans ce livre, une voiture en route vers le salut, avec une plaque un peu particulière.
Oui, en fait, à un moment dans le roman, donc Gabriel... je parlais tout à l'heure du personnage d'Emma, donc qui a 40 ans, qui vient d'une riche famille en France, qui est partie au Sénégal pour une œuvre caritative, dirons-nous, et qui a perdu la foi parce que elle a eu un drame dans sa vie. Pour essayer de lui redonner un petit peu la foi, il va l'emmener à travers les sous-régions, dans les sous-régions au Sénégal. Et pour ça, il va dans un garage et il se fait fabriquer une voiture, en fait, ou plutôt il rachète une voiture et il la fait repeindre. Et dessus, il demande au garagiste et au carrossier de lui peindre une étoile de David, un croissant de lune et une croix. Et donc le garagiste, il dit, mais pourquoi vous laissez trois symboles religieux? Il dit, comme ça, si j'ai un accident de voiture et que je meurs, j'irai au paradis, il n'y aura pas de vice de forme.
Voilà, un très, très beau roman, plein d'esprit également. Alors pour poursuivre cette rencontre, Serine, je vais vous proposer de lire un court extrait pour illustrer l'atmosphère de ce livre.
Je dois Introduire l'extrait ou pas, ou juste le lire? Juste le lire, ok. Assis sur cette chaise, les coudes sur cette table décorée de fleurs décapitées, j'assiste avec désarroi à cette nocturne mascarade. Qu'est-ce que je fabrique ici au milieu de ces gens? Qu'est-ce qui vous anime pour vous réunir dans ce genre de gala? Qu'est-ce que nous célébrons? Notre gentillesse? C'est en l'honneur de notre générosité que nous nous rassemblons, que nous avons mis nos plus beaux costumes et habillé nos consciences des plus belles intentions? Même nos cœurs font de la chirurgie esthétique. Notre bonté a du collagène dans les flancs. On veut paraître bon comme on veut paraître beau. Combien sommes-nous prêts à donner pour ça? Beaucoup. Ne nous inquiétons pas, nous avons de bons chirurgiens éthiques. Tout va bien, nous n'y sommes pour rien. Il me faut une feuille et un stylo.
Alors, Serigne, un roman sur les diables et comment les combattre. Est-ce que vous, votre arme, c'est justement une feuille et un stylo?
Je dirais que c'est très juste. Que pour combattre mes propres démons, je dirais, même si c'est une image assez simple, mais en tout cas, j'avoue que la feuille et le stylo sont des bons pansements à plein de questionnements et plein de combats que j'ai à l'intérieur.
Un questionnement difficile parce que vous parliez de lucidité tout à l'heure, d'observation du monde, et dans ce livre, vous dites que c'est douloureux d'être lucide, d'observer le monde tel qu'il est.
Oui, alors... Pour illustrer ça, on tombe toujours dans des idées et des phrases un peu creuses, mais moi, en fait, ce qui m'a inspiré ce roman-là, en tout cas, qui a été un élément déclencheur dans l'écriture de ce roman, c'est qu'un soir à Dakar, il y a environ 3-4 ans, je rentrais de boîte de nuit et je passais par la rue principale, donc qui est donc la rue Ponty, qui est un petit peu les Champs-Élysées locaux, même si ça n'a rien à voir avec les Champs-Élysées parce que c'est beaucoup plus petit, mais bon, c'est une des avenues les plus fréquentées à Dakar. Et j'ai vu trois enfants livrés à eux-mêmes. Et le plus petit avait 4 ans et ils étaient complètement livrés à eux-mêmes à 3-4 heures du matin. Et ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Enfin, ça m'a... Donc après, on réfléchit à plein de choses, on se pose des questions, comment ça se fait et tout ça. Et puis bon. Et en fait... au-delà de passer et puis de leur donner de l'argent, c'est comme si il m'avait suivi encore après, en fait. Je me disais, mais comment c'est possible? Comment est-ce possible? Parce que bon, en France, j'ai pas vu d'enfants livrés eux-mêmes dans la rue. Je les ai vus, même si c'est tout aussi triste, mais au moins ils étaient avec une maman, ou enfin bref. Là, ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes, quoi. Il y a un documentaire aussi qui s'appelle Le cauchemar de Darwin, qui se passe, je ne sais plus dans quel pays africain, mais où on voit des enfants comme ça, de cet âge-là, livrés à eux-mêmes à une heure aussi tardive dans la rue. Et voilà, enfin, alors, c'est peut-être ma sensibilité ou je ne sais pas, mais c'est des choses qui me bouleversent, et j'arrive pas à me dire en rentrant chez moi, oui, c'est normal, c'est comme ça, c'est le rapport Nord-Sud, j'arrive pas à me dire ça, en fait, et forcément, en cherchant des explications plutôt, eh ben, on essaie d'être lucide et forcément il y a un truc qui marche pas, quoi.
Alors les âmes de ces enfants sont dans ce roman puisque ce sont eux les derniers de la rue Ponty. Il y a également d'autres âmes qui sont assez tristes, comme ceux qui partent pour un voyage d'enfer. Ça aussi c'est une problématique d'aujourd'hui.
Oui, en fait, moi j'ai un cousin, bon, qui n'est pas un vrai cousin, mais au Sénégal souvent on dit qu'on est cousin. En tout cas, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui lui-même a tenté ce voyage, donc de monter sur une pirogue, enfin plutôt de payer de l'argent à un passeur, de monter sur une pirogue et tenter de rejoindre les îles Canaries. Et en fait, il m'a raconté donc son périple, et il m'a raconté des choses assez dures que j'ai emprunté et essayé de retranscrire le mieux que je pouvais dans le roman. Oui, donc dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Alioune, qui lui va faire ce voyage-là. Et voilà, donc toujours dans ce rapport nord-sud, de ce miroir un peu faussé, de ceux qui sont là-bas, qui veulent venir ici. Il y en a, le personnage d'Emma, elle vient d'ici, mais elle se retrouve plus, et donc elle va vivre là-bas. Enfin, c'est un petit peu à la frontière entre c'est à la frontière nord-sud, quoi. J'ai parlé de ça.
un roman finalement, parce que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, parce que certains passent, regardent et puis oublient, parce qu'il est également question des d'autres âmes, les âmes affaiblies par le rêve de l'Occident. Vous avez une formule qui résume bien ça quand vous dites « le jour où l'Afrique toussera, le monde entier s'étouffera ». Il y a aussi toute cette problématique que vous dénoncez à travers les marques, le côté sournois des marques de cigarettes.
Oui. En fait,
ce que vous vous engagez là finalement, non ?
Je prends parti, oui, mais c'est pas un parti Afrique-Occident, c'est un parti humain en fait. C'est que ce à quoi vous faites référence quand je parle des cigarettiers dans le roman, c'est qu'effectivement. Moi, en tant que rappeur, quand j'étais là-bas, il y a des marques de cigarettes qui m'ont approché pour venir mettre des banderoles derrière mes scènes de spectacle. Alors non pas que je tire à boulet rouge sur les gens qui fument ou quoi que ce soit, c'est pas ça le problème. C'est juste que là-bas, avant d'avoir envie de fumer, je pense que beaucoup de gens ont besoin de manger déjà. Et je trouvais ça très vicieux de passer par le rap, qui est une musique qui plaît beaucoup aux jeunes là-bas, de passer par le rap pour faire la promotion de cigarettes en fait. Mm-hmm. Donc voilà, donc c'est un aspect que j'ai décrit dans le roman aussi.
Parmi les âmes qui sont mis en scène dans ce livre, alors on l'a dit, oui, peut-être qu'il y a des accents tristes dans ce livre, mais finalement le côté artistique, les blessures, c'est ce qui donne finalement l'intensité, les plus belles émotions. Et justement au niveau des émotions, vous évoquez souvent les larmes dans ce roman. Les personnages pleurent beaucoup car finalement elles échappent à la raison, les larmes. C'est beau, les larmes.
Oui, c'est quelque chose qu'on peut pas retenir déjà. Qu'on essaie de contenir et puis ça déborde quoi. C'est le sentiment en fait qu'exprime Gabriel au début quand il dit que c'est comme s'il était constamment au bord de pleurer en fait. Et quand on est dans cette émotion-là, on est dans un espèce de flou et je voulais que le personnage soit flou. Donc voilà, c'est cette espèce de fréquence-là où on va presque pleurer. Le livre, il est un peu sur ce niveau-là, en fait.
Un très beau flou artistique que vous nous proposez là. Vous l'avez dit, la femme est importante, parce que sauver une femme, c'est sauver une humanité, puisque c'est finalement sauver un peuple à venir, et surtout sauver l'enfance, qui seront les adultes de demain. À un moment donné, il est écrit « L'homme est tellement pauvre, j'aurais aimé être une femme ». C'est votre cas, Sérigne.
Par certains aspects, oui, parfois. C'est-à-dire quand je vois, alors ça aussi, c'est une idée facile, mais pourtant c'est ce que je pense. Pouvoir donner la vie, moi, c'est quelque chose qui me, c'est un pouvoir que je n'aurais jamais en fait. Et ça, c'est quelque chose, pouvoir sentir la vie et tout ça à l'intérieur de moi, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais ressentir. Et rien que pour ça, si je pouvais être une femme 9 mois dans ma vie, et ben voilà.
En tout cas, vos accouchements passent par ce premier livre. On peut dire que la lecture, les livres, ce n'est pas une femme qui vous a transmis l'envie, mais un homme, Jack London.
Oui, il a participé à ça. Mais en premier, quand même, c'est une femme parce que ma mère, qui est bibliothécaire par son métier, m'a poussé à lire depuis que je suis petit, mais je n'aimais pas lire en fait. Mais par chance, vers l'âge de 12 ans, ma télévision a implosé. Ma mère n'avait pas les moyens d'en racheter une et tous les livres qu'on m'avait offerts à Noël que je ne voulais pas lire parce que je n'aimais pas lire, j'ai commencé à les ouvrir petit à petit par ennui parce que je suis fils unique et je m'ennuie à la maison. Et de couverture en couverture, de chapitre en chapitre, j'ai été inoculé par le virus de la lecture.
Voilà, et avant de terminer cette rencontre par une lecture, j'ai envie de vous demander finalement, vous préférez tenir en main un micro ou un stylo ?
Waouh. je sais pas, les deux, peut-être qu'un jour j'essaierai aussi de tenir un pinceau dans ma main, je ne sais pas. En fait, vraiment, je sais pas.
Vous vivez la question restera sans réponse et c'est à chacun d'entre vous peut-être de trouver la réponse à travers ce premier roman complètement abouti, plein d'émotions, plein d'humanité, je l'ai dit. Donc pour terminer, je vais vous proposer de lire encore un extrait pour vous partager cette atmosphère.
Un autre jour dans cette ville au cycle imperturbable. Je suis assis à la terrasse vétuste du Just For You, un café-club de jazz. Je m'apprête à écrire une lettre à mon guide. Depuis plus d'une heure, je cherche l'inspiration, les yeux perdus dans le rouge clair de mon verre de Bissap. Je la saisis enfin, mon stylo glisse sur la feuille. Dakar le 20 mars, 18h. Grand Souleymane, c'est Gabriel. Je t'écris ces quelques lignes pour te remercier. J'ai fait ce que tu m'as dit et suis allé voir les derniers de la rue Ponty. J'ai passé la nuit avec eux et me voilà plein de force. Je pense avoir trouvé les deux femmes qui m'aideront à accomplir ma dernière mission terrestre. La première s'appelle Sally. Elle est jeune, son âme est belle et forte comme un soleil. Je ne sais encore en quoi je vais pouvoir l'aider, mais je trouverai, je suis sûr que c'est elle. Je l'ai su en sondant son cœur. La seconde s'appelle Emma. Elle est d'une grande tristesse. Plus âgée, elle doit avoir 40 ans. Je la sauverai aussi si Dieu me l'accorde. Mais le démon me guette. Je le sens à son souffle dans le creux de mes oreilles. Il parasite mes méditations, s'infiltre dans mes prières. Il se déguise en femme et inonde mon ventre de décharges électriques la nuit quand je dors. Parfois, je le vois nager tel une sirène dans les verres d'alcool. Je l'ai vu danser et onduler langoureusement dans la fumée d'un guerrier aux cheveux debout. Le combat est proche. Je le sens et j'ai de moins en moins peur. J'ai décidé de ne plus me cacher et d'apparaître aux yeux de tous. J'économise mes pouvoirs d'ange afin qu'ils soient puissants le jour du combat. Prie pour moi, j'en ai besoin. Gabriel. Je plie ma lettre et la range dans la poche intérieure de mon long manteau noir. Je la posterai plus tard. Ma lettre est bien courte. Enfin, elle dit l'essentiel. Je finis mon verre de Bissap acide au parfum de menthe et pars rejoindre Sally qui m'a donné rendez-vous en bas de chez elle.
Serigne, un très très grand merci et n'hésitez pas à venir le rencontrer pour la dédicace.
Merci beaucoup.